Le progrès pour une entreprise, c'est se renouveler. Être capable de sortir de sa zone de confort pour répondre à de nouveaux défis. Comme 1,1 million de travailleurs en France, ADA est reconnue handicapée. Être en dehors de sa zone de confort, c'est son quotidien. Le progrès, c'est elle.
C'est moi.
Et aussi Martin.
C'est moi.
François-Yves.
C'est moi.
Yazid, Sarah, Alice.
C'est nous.
Avec l'aide de la GFIP, faisons progresser les entreprises grâce à l'emploi des personnes handicapées. Du 20 au 26 novembre, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Rejoignez les milliers d'entreprises engagées sur activateurdeprogrès.fr.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés.
Je puis dire avec le sentiment du devoir accompli, j'ai parcouru le monde en homme libre, j'ai contemplé la nature d'un regard à la fois candide et fier, me souvenant que l'antique Freya était en même temps la déesse de la terre et celle de la liberté.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La semaine prochaine se déroulera la 33e édition du prestigieux festival du film d'histoire de Pessac, près de Bordeaux. Le thème en est cette année « Notre Terre ». Et j'ai souhaité braquer à cette occasion l'attention sur un grand géographe, en le replaçant dans l'histoire. Ce géographe, c'est Élisée Reclus. Ses écrits, parmi lesquels brille précisément un ouvrage impressionnant intitulé « L'homme et la terre », lui valurent en son temps, au XIXe siècle, auprès d'un large public, la réputation d'un auteur majeur dont l'influence dépassa les frontières de la France. Et pourtant il se trouve qu'il est aujourd'hui tombé à peu près dans l'oubli. Si bien qu'on éprouve le goût de contribuer à le faire redécouvrir, tout en s'interrogeant à la fois sur les motifs qui l'ont relégué dans la mémoire collective et sur la vitalité d'un héritage qui peut retrouver ses couleurs. Autour d'Élisée Reclus, la curiosité s'élargit à sa famille entière, en particulier à ses frères Élie, Onésime et Armand, et à ses six sœurs, toutes enseignantes qui ont été en profonde solidarité à proximité de ses recherches et de ses convictions. Béatrice Gibelin est mon invitée, directrice de la précieuse revue de géographie Hérodote, où l'on aime aussi beaucoup l'histoire, comme son nom l'indique. Elle y a publié deux textes sur Élisée Reclus qui ont été remarqués et qu'elle a réunis en un volume destiné à célébrer, c'est son sous-titre, un géographe d'exception. Elle va nous guider vers la compréhension d'un personnage qui, servi par un beau talent de prosateur, s'est voulu libertaire et anarchiste, loin des nomenclatures fastidieuses et des conventions bourgeoises. Il avait, quant au rôle social, civique, moral de la discipline, des convictions généreuses dont vous allez voir qu'elles peuvent résonner, et pas seulement du côté de l'écologie, d'une façon étonnamment actuelle.
J'aime beaucoup ce genre de vie. Se lever avant le jour, ou bien lorsque les nuages commencent à surgir un peu, marcher au milieu des forêts, des sentiers, dans les herbes fraîches de rosée, s'arrêter sur le bord d'une fontaine, sous les rochers, pour manger son pain et son fromage, gravir à travers les pierres qui s'écroulent et vont bondir à plusieurs centaines de mètres plus bas, se souvenir qu'on a été nourri par une chèvre en escaladant les rochers. Monter sur un pic pour contempler un admirable paysage de montagne, puis redescendre sur le gazon des pentes, quelquefois aussi sur les chemins pierreux pour gagner son dîner à la sueur de son front. Tout cela me plaît infiniment.
Béatrice Gibelin, bonjour.
Bonjour.
vous le retrouvez là, d'emblée, votre Élisée Reclus,
ah oui.
Celui qui disait « on trouve toujours plus dans la nature qu'on y a cherché ».
Oui, je le retrouve pleinement. Ça me fait très très plaisir que vous ayez commencé l'émission avec ce texte remarquablement bien dit d'ailleurs. Et on a tellement Élisée là-dedans, dans ce plaisir qu'il avait à marcher en montagne. Il y a aussi l'effort physique qui compte chez Élisée Reclus. C'était un tout petit bonhomme. Il était vraiment très, très petit, mais très musclé. Et paraît qu'on avait du mal à le suivre, surtout quand on était en train de gravir une montagne. Il y avait comme une forme d'excitation chez lui pour arriver au sommet. Mais c'est vrai aussi que, maintenant j'en fais plus, mais j'en ai fait beaucoup de la randonnée en montagne, et le plaisir d'arriver en haut et de la découverte du paysage, et c'est un plaisir qui est encore plus fort, j'allais dire, chez les géographes, qui sont très souvent amoureux de la montagne, parce que c'est la compréhension du paysage, comment il s'est fait, comment il s'est fabriqué, quelle est son histoire, en fait. Jouir d'un paysage en comprenant comment il s'est fait, c'est encore mieux que simplement se dire c'est un beau paysage. Voilà, et ben il y a ça chez Reclus. Puis on sent tout de suite aussi une extrême simplicité. On s'assied, on sort le casse-croûte, son pain, son fromage, dans un cadre très très beau. C'est un grand émotif, Reclus. Pour vous raconter une anecdote, la première fois qu'il a vu la mer, ils étaient donc dans le sud-ouest, ils étaient du côté d'Orthez, il est parti avec son frère et un ami, et quand ils sont à pied, bien sûr, et quand il a vu la mer pour la première fois, donc il était sur un point haut, d'émotion, il a mordu son frère, l'épaule de son frère jusqu'au sang.
C'est effrayant.
C'est effrayant, mais c'est pour donner la puissance d'émotion que la nature, que les éléments peuvent produire chez Élisée Reclus.
Puisque vous évoquez ce geste un peu étrange, mais qu'on peut probablement interpréter de façon différente, cette morsure-là, ça me conduit très directement à vous demander d'évoquer quel est le milieu d'origine qui a beaucoup, beaucoup marqué, forcément, Élisée Reclus, un milieu de protestantisme assez rigide du côté du Bordelais.
Alors, c'est le moins qu'on en puisse dire, qu'on ne peut pas ne pas être marqué par une famille comme ça. Le père Jacques Reclus est un pasteur qui appartient à l'Église tout à fait officielle. Il est d'ailleurs rémunéré pour ce rôle de pasteur. Il enseigne aussi à Sainte-Foy-la-Grande. Mais ça lui convient pas. Ça lui convient pas parce que il se sent tributaire de ceux qui le payent. Voilà. Et il ne veut rien d'autre entre lui et Dieu, rien. Donc il décide, alors qu'il a déjà 4 enfants, de partir à cheval à l'appel d'un groupe qui se trouve près d'Orthez, de protestants. Il part à cheval en prenant son fils Élie, qui est le frère aîné d'Élisée, qui se souvient un peu de sa frayeur d'être contre son père, qui galope comme ça pour s'en aller dans les Pyrénées. Et il décide de s'installer là-bas, en ayant laissé sa femme et les jeunes enfants, pour pouvoir prêcher et sans obtenir d'argent. Tout ça, c'est des choses qui sont gênantes, qui vont le perturber. Donc non, rien entre Dieu et lui et les gens qui l'appellent.
Il a dû quand même revoir sa femme, puisqu'ils ont eu 14 enfants.
Donc elle va partir, mais pas tout de suite. Elle va partir presque un an après, pas tout à fait un an, pour le rejoindre, en laissant Élisée à ses grands-parents maternels, qui lui donc va passer les 6 premières années de sa vie sans être au milieu de ses frères et sœurs, sans être là-bas dans ce Béarn.
Bien. Mais et ensuite, il rejoint, il est dans une tribu qu'on peut, tribu c'est une expression protestante, oui, qu'on oui. peut peut-être définir, comme vous le faites, autour de 4 idées. Amour du travail scientifique, esprit d'indépendance, farouchement. Amour et respect des humbles, et puis tendance aussi au prosélytisme moral et social.
Oui, ça c'est exactement le guide. D'une certaine façon, alors ils vont tous garder ça du père, mais le père était infernal entre nous. Il avait un côté mystique et je dirais presque méchant.
L'ambiance ne devait pas être prime sautière.
Ah non, c'est le moins qu'on en puisse dire. Et je pense que la mère a fait ce qu'elle a pu. Et la mère, elle, enfin c'est tellement souvent le cas des femmes, elle va assurer le quotidien pour ses enfants. Et elle va, elle venait, elle, d'un milieu plus aisé, avec un petit peu de bien. Bon, elle a dû tout laisser. Et elle va devenir institutrice, bah, parce qu'il faut bien faire rentrer un peu de sous pour nourrir tous ses enfants. Et ils vont prendre après une plus grande maison. Ça sera presque un pensionnat. Il y aura des filles de milieu protestant, bien sûr, qui viendront suivre les cours de cette femme absolument remarquable. Élisée avait une grande, grande affection pour sa mère, même s'il n'a pas passé une grande partie de sa petite enfance avec elle, puisqu'il était chez ses grands-parents.
On est très frappé du fait qu'il y a très tôt une sorte de mobilité intrinsèque à ça. D'ailleurs, c'est paradoxal, c'est presque un oxymore, quand on s'appelle reclus, d'aller se promener beaucoup.
Mais peut-être que ça a joué, on ne sait jamais. C'est vrai, il avait besoin de partir. Mais il se sauvait vers, pour aller voir le Gave, par exemple, quand il était gamin.
Oui, le Gave qu'aimait tellement Paul-Jean Toulet.
Exactement.
Et quand le Gave où l'on allait nager, disait Toulet.
Voilà. Et Élisée adorait se déshabiller et nager tout nu. Pour lui, c'était un grand plaisir, ce rapport direct à l'eau, dans la nature, et se rhabiller après. Il y a des textes où c'est raconté. Mais le père trouvait que non, on n'avait pas à aller se batifoler comme ça dans la nature. Il part quand même très tôt. Hein, il n'a pas été si longtemps que ça, puisqu'il revient dans sa famille, il a 6 ans à peu près, 6-7 ans. Et puis à 12 ans, il est envoyé à pension, très loin de chez lui, puisqu'il part en Allemagne, sur les bords du Rhin, à Neuwied, chez les frères Moraves, que le père portait en haute estime. Donc, il a passé 6 ans seulement, là, au sein de cette famille.
Et déjà, il apprend l'allemand. C'est un point qui est notable, c'est sa connaissance qu'il a d'un grand nombre de langues.
Parce qu'il parle très bien, évidemment, la langue française. Il parle très bien l'allemand, puisqu'il l'a appris en étant chez les frères Moraves dès l'âge de 12 ans. Il parle parfaitement l'anglais, puisqu'il a séjourné à Londres, en Irlande et aux États-Unis. Il parle l'italien.
Le russe même.
Il se débrouille en russe.
Lit le russe, oui.
Il se débrouille en russe. Quelques rudiments d'arabe. Je trouve que c'est quand même pas mal. Hein.
Alors, décrivez-nous les itinéraires de ce gyrovague pour que l'on comprenne comment il s'est formé et comment, chez lui, le goût passionné de la géographie, d'une certaine géographie dont nous allons analyser les spécificités, est né.
Alors, il part donc en diligence, seul, parce qu'il n'y a pas d'argent pour que sa mère puisse l'accompagner, à 12 ans, où il rejoint son frère aîné qui y est déjà. Et il y aura eu la sœur aînée aussi dans cette situation. Et puis, il va y rester quelques temps. Et puis, il va décider, en fait, il va revenir avec son frère. Et c'est assez étonnant parce qu'ils reviennent à pied. Et ils font toute la traversée de la France à pied. C'est en septembre. C'est un souvenir formidable. Il en parlera très longtemps. Il adorait son frère.
Hein. Comme le Tour de France des deux enfants. Cette idée de fraternité est très importante chez lui, je crois.
Chez lui, est essentiel. Enfin, Élie, c'est son alter ego. C'est vraiment un frérissime, comme il dira, pour parler de lui.
Avec beaucoup de tendresse aussi pour ses sœurs, qui ont toutes été des enseignantes.
C'est une famille d'enseignants.
Et notamment Noémie, nous allons le voir.
Voilà. Et donc, ils reviennent à ce moment-là dans le Béarn, bien sûr. Et puis, ce voyage, il a 19 ans, est extrêmement important. Puis, il va repartir faire des études à Berlin. C'est important, Berlin. Parce qu'à Berlin, c'est le seul endroit où on enseigne la géographie. C'est Ritter qui est le premier grand géographe qui a écrit un gros ouvrage que Reclus traduira d'ailleurs en français.
Même s'il est assez loin de ses thèses, vous êtes assez darwinien.
Oui.
C'est-à-dire l'idée que les peuples sont faits pour dominer d'autres peuples pour des raisons en quelque sorte intrinsèques.
C'est vrai, mais c'est quand même le premier qui réfléchit sur les continents, l'agencement des continents. Il y reste un an. Hein, c'est pas non plus énorme. Et il va donc après ça quitter. Mais il va donner des leçons aussi à Berlin. Enfin, et il fait déjà preuve de caractère parce que il n'a pas un sou, hein. Il avait l'occasion de travailler dans une famille, mais non, il a trouvé qu'il ne serait pas assez libre pour raconter ce qu'il voulait, donc il n'y est pas resté. Voilà, donc il va partir. Et puis il y a le coup d'État de Napoléon III en 1851. Ils sont républicains, hein, il s'était enthousiasmé en 1848, évidemment, et là, il est obligé de s'exiler avec son frère, et c'est Londres.
Parce qu'il s'est révolté du côté d'Orthez.
Complètement. Complètement. Et bon, on n'a pas le temps de raconter tous les détails, mais c'est assez amusant. Voilà comment les choses se passent. Bref.
Il a connu d'ailleurs dans sa vie deux exils, en fait.
Oui.
Un premier exil à cette occasion et le second après la Commune.
Après la Commune.
Entre-temps, il a beaucoup voyagé. Enfin,
constamment.
Cette mobilité, vraiment.
Constamment.
Et il va découvrir le Nouveau Monde.
Alors, il a découvert, évidemment, après Londres, l'Irlande.
L'Irlande,
petit
c'est
point
important.
Sur l'Irlande. Parce que l'Irlande, il va découvrir vraiment la rudesse de la colonisation.
La domination.
Mais absolument, on sort de la grande famine, hein, on est 51, 1847. Et ça va avoir, de mon point de vue, une influence très très grande sur la façon dont il va faire de la géographie. À la fois, il est absolument séduit par le paysage, et comprendre les paysages, et la dynamique des paysages. C'est quelque chose qui est très intéressant chez Reclus. Les paysages sont toujours en mouvement chez lui. Et il comprend ça, et il comprend aussi la domination, l'exploitation terrible, absolument terrible, des grands propriétaires anglais sur la paysannerie irlandaise.
Nous allons voir tout cela, oui, bien sûr.
Et il part aux États-Unis, il arrive en Louisiane, et là, il va se retrouver à travailler. Il fait 36 000 misères, mais il va finir à travailler chez un planteur comme précepteur pour deux jolies filles, dont l'une tombera amoureuse de lui, ce qui l'amènera à devoir quitter assez rapidement, parce qu'il ne veut pas d'ennui, puis on ne peut pas tomber amoureux de la fille d'un esclavagiste, ce n'est pas possible.
Alors qu'on peut tomber amoureux d'une jeune femme dont la mère est Peul, sénégalaise, ça sera sa première femme.
Ça, c'est bien ça, c'est Clarisse Brillant, et qui était, je crois, extrêmement jolie. Élisée Reclus aimait beaucoup les femmes, et aimait beaucoup les jolies femmes. Il n'est jamais resté veuf très longtemps, il s'est souvent marié dans l'année qui suit.
Il faut dire que les deux femmes, c'est d'époque, sont mortes toutes les deux en couche en donnant naissance à un enfant.
Deux.
À propos des États-Unis, écoutez donc cette lettre à sa sœur Noémie, cette sœur chérie, où il évoque son départ de la Nouvelle-Orléans pour l'Amérique du Sud. Un mistouflet géographique. Nous allons voir ce dont il s'agit. C'est un extrait de l'émission notoire de France Culture, Une vie, une œuvre, 23 octobre 1997.
Lettre à sa sœur Noémie. Dans quelques jours même, je vais courir les hôtels et tous les bordels de la Nouvelle-Orléans pour y trouver un professeur qui consente à endosser le carcan et à manger des piastres à ma place. J'ai mes raisons pour filer. Ces raisons-là sont folles, cela va sans dire. Et c'est justement pour cela que je les aime, car elles sont bien à moi. D'abord, je suis là de manger et de boire, de dormir dans un lit, et de frapper sur un gousset rempli, voire de regarder l'heure sur une montre authentique. J'ai besoin quelque peu de crever de faim. Que ferais-je là-bas ? Demandes-tu toujours, chère et sage Noémie. Je me ferai ou berger, ou tondeur de chiens, ou peintre en bâtiment, ou professeur d'obstétrique. Tout m'est bon pourvu que je marche. Mais dès que tu me diras, chère sœur, je viens, alors je vais m'arrêter dans quelque charmante vallée, au pied de l'Ande sourcilleuse, sur les bords d'un fleuve qui descend en grondant de l'Amazone. Je réclame de la Nouvelle-Grenade mes 10 hectares, et j'y construis une charmante cabane. Viens, ce sera délicieux. Cependant, quand bien même vous ne viendriez pas de sitôt, j'ai bien quelques semblants de projets que la chance pourrait me faire réaliser. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que je suis enceint depuis longtemps d'un mistouflet géographique que je veux mettre au monde sous forme de livre. J'ai déjà suffisamment griffonné, mais cela ne me suffit pas. Je veux voir les Andes pour jeter un peu de mon encre sur leur neige immaculée. Pour ce, je m'achète un mulet. Je le charge d'une caisse remplie de fils, d'aiguilles et d'épingles, et je vais de montagne en montagne, et de ville en ville, les vendre aux hommes reconnaissants. N'est-ce pas, Noémie, que tous ces plans sont fort sages ?
Voilà, en effet, Béatrice Gibelin, des plans fort sages. Je rappelle que mistouflet, c'est un mot qui vient du mot mistoufle, dans le moyen français, qui veut dire misère, pauvreté. Un mistouflet, c'est un maladroit, c'est un ego, évidemment, c'est auto-ironique.
Bien sûr, ce mistouflet, c'est aussi un petit. Hein. C'est pas seulement un ego, c'est aussi un petit. Et c'est en Irlande qu'il a l'idée de faire cet ouvrage-là. C'est dans un paysage d'Irlande, il l'écrit très très bien, et qu'il dit « si j'arrive à faire ça, j'aurais pas tout à fait perdu mon temps ». Et c'est un de ses grands projets, et ça donnera à la Terre, son premier grand ouvrage en deux volumes, dans lequel il y a encore des choses à lire, et qui sont de plein d'enseignements d'ailleurs.
Ah, un nos auditeurs et nos auditrices vont se précipiter sur l'œuvre d'Élisée Reclus. Ils songent à un moment donné à être paysans en Amérique du Sud.
Oui, ben, on a dit qu'il était libertaire. Hein, qu'il est, presque mieux le terme de libertaire à celui d'anarchiste, d'ailleurs. Un anarchiste est aussi connoté avec ces actes violents qu'il y a pu y avoir, alors qu'on ne l'a pas avec libertaire. Et donc, il y a tout un courant favorable aux colonies de peuplement. Et lui est favorable à ces colonies de peuplement, c'est-à-dire aller mettre en valeur la terre. Pas pour l'exploiter dans des grandes latifundias, non, non, on va avoir quelques hectares, une dizaine d'hectares. Il le dit d'ailleurs, si on me donne 10 hectares, je les mettrai en valeur.
On est un peu dans la ligne, une génération après, des socialistes utopiques qui ont beaucoup rêvé.
Exactement.
Exporter comme ça leurs espérances.
Et en disant, mais ils ne sont pas assez nombreux pour mettre en valeur cette terre, donc on peut y aller. On va la travailler ensemble. On ne va pas du tout être en situation de domination. On va faire ensemble les choses.
Il écrit d'ailleurs en 1851, ces lignes tout à fait propres à éclairer votre propos, Béatrice Gibelin. Pour résumer, notre but politique dans chaque nation particulière, c'est l'abolition des privilèges aristocratiques et dans la terre entière, c'est la fusion de tous les peuples. Notre destinée, c'est d'arriver à cet état de perfection idéale où les nations n'auront plus besoin d'être sous la tutelle ou d'un gouvernement ou d'une autre nation. C'est l'absence de gouvernement, c'est l'anarchie, la plus haute expression de l'ordre. On voit comment ce qui se développe comme sa doctrine s'enracine dans cette expérience
complètement
de voyageur, obsessionnellement voyageur.
Obsessionnellement voyageur, avec en plus cette représentation qu'il y a un ordre dans la nature qui est un ordre harmonieux. Et que si on respecte cet ordre harmonieux, tout doit bien aller. Et c'est l'idée, à ce moment-là, qui est très en vogue, des grands bassins versants. Et qu'on doit organiser le monde en fonction des grands bassins versants. Ce qui, est évidemment, n'a aucun sens.
Bassin versant,
bassin versant, ça veut dire un fleuve central.
Madame la géographe.
C'est un fleuve central et toutes les rivières affluents. Il y a donc le bassin versant de la Garonne, le bassin versant de la Seine, le bassin versant de la Loire, le bassin versant du Rhône. Alors là, ça, c'est à la limite, Dieu l'a voulu ainsi, d'une certaine façon. Et il imagine que si on organise le monde en fonction de ces bassins versants, eh bien, les choses vont bien se passer. Il a une conviction très, très profonde que la terre, que la nature est quelque chose d'harmonieux. Il ne voit jamais la nature dans ce qu'elle a, j'allais dire, de négatif.
Ou de âpre. Achevons, si vous le voulez bien, la description de son itinéraire avant d'en venir à l'essentiel de sa pensée.
Alors, donc, il fait cette expérience en Amérique centrale, mais surtout en Amérique du Sud, ce qui est la Colombie d'aujourd'hui. Échec retentissant, il finit avec la malaria, pas un sou. Son frère va lui envoyer l'argent pour le billet de retour et il va revenir sur Paris. Et là, il dit, j'espère pouvoir vivre de ma plume, peut-être que je réussirai. Et effectivement, très vite, Hachette, qui est le grand éditeur à ce moment-là, va lui proposer un bureau, ce qui est pour lui formidable, et il va parcourir la France et aussi un certain nombre de pays européens pour les guides Joanne, qui sont les ancêtres des guides bleus. Et c'est le chemin de fer, là aussi, qui démarre, et il fait ça avec beaucoup de sérieux et aussi d'amusement, et puis surtout, il réussit à se faire accueillir à la Société de géographie, qui existe toujours, boulevard Saint-Germain, dans les mêmes lieux d'ailleurs, en face de la Brasserie Libre, pour nous donner une précision.
Près du Flore et des deux Magots, puisque vous entraînez nos auditeurs
exactement,
dans ce lieu prestigieux.
Ils passeront devant la Société de Géographie, et donc ils rentrent en 1858. C'est intéressant, parce que la Société de Géographie, ce n'est pas du tout des universitaires. D'abord, la géographie n'est pas enseignée, donc ce n'est pas le cas, mais ce sont des commerçants. Beaucoup, hein. Des explorateurs.
La géographie,
aussi.
C'est un instrument.
C'est un instrument pour découvrir le monde et puis pour pouvoir en faire quelque chose, l'exploiter. Et il arrive à trouver deux parrains. On ne sait pas encore trop qu'il est anarchiste, sinon il n'aurait jamais pu y rentrer, je crois. Et il va devenir... c'est important parce que c'est la seule bibliothèque de géographie. Puisqu'il y a tous les ouvrages des explorateurs qui sont là et qu'il va évidemment lire, qui lui sont vraiment indispensables. Mais pas seulement, parce que je crois que c'est quelque chose à dire chez Élisée Reclus, que c'était un grand lecteur de la presse. Il s'informait par la presse. Je crois que c'est à noter, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait, à cette époque-là, tant de gens que ça, parce qu'il lisait la presse anglaise, il lisait la presse allemande, la presse française. Et comme il était anarchiste, il avait quand même des contacts avec des anarchistes dans des tas de pays étrangers. Mais je pense que c'est très important, ça.
Il y a chez lui ce travail en bibliothèque. D'ailleurs, son frère, il est curieux de le noter, son frère Élie a contribué à sauver la Bibliothèque nationale au moment de la Commune.
C'est vrai.
Mais pour donner encore l'idée de son goût de la marche, notamment en montagne, écoutez cet extrait du Sentiment de la nature, un texte de jeunesse, il avait une trentaine d'années. C'est un extrait de La vie comme elle va, de Francisca Piolo, le 1er avril 2004.
D'où vient cette joie profonde qu'on éprouve à gravir les hauts sommets ? D'abord, c'est une grande volupté physique de respirer un air frais et vif qui n'est point vicié par les impures émanations des plaines. On se sent comme renouvelé en goûtant cette atmosphère de vie. À mesure qu'on s'élève, l'air devient plus léger. On aspire à plus longs traits pour s'emplir les poumons. La poitrine se gonfle, les muscles se tendent. La gaieté entre dans l'âme. Et puis, on est devenu maître de soi-même et responsable de sa propre vie. Le piéton qui gravit une montagne n'est pas livré aux caprices des éléments, comme le navigateur aventuré sur les mers. Son œil lui sert à éviter les pierres du sentier, à mesurer la profondeur des précipices, à découvrir les saillies et les anfractuosités qui faciliteront l'escalade des parois. En mille occasions, durant l'ascension d'une montagne escarpée, on comprend qu'il y aurait à courir un vrai danger si l'on venait à perdre l'équilibre ou si le regard était tout à coup voilé par un vertige ou si les membres refusaient leur service. C'est précisément cette conscience du péril, jointe au bonheur de se savoir agile et dispos, qui double, dans l'esprit du montagnard, le sentiment de la sécurité. Quant au plaisir intellectuel qu'offre l'ascension, et qui du reste est si intimement lié avec les joies matérielles de l'escalade, il est d'autant plus grand que l'esprit est plus ouvert, et qu'on a mieux étudié les divers phénomènes de la nature. Élisée Reclus, du Sentiment de la nature.
Il me semble, Béatrice Gibelin, que ce texte complète celui que nous avons entendu à l'origine de notre émission.
Oui, bien sûr, mais on a ce plaisir d'être dans la montagne, la façon dont il en parle. Et quand il dit on a besoin de tenir son équilibre, hein, on se rend compte que si on ne tient pas l'équilibre, là, les choses vont mal se passer. Et je pense que c'est pour lui à la fois... ce que je disais tout au début, il a un sentiment, une émotion qu'on a du mal, peut-être nous, à se représenter à quel point il le vivait de façon très, très physique, si vous voulez.
Vous êtes devenu froid, les géographes ?
Je ne suis pas sûre qu'on sache écrire comme on pouvait l'écrire au 19e, vous le savez bien.
C'est un bonheur.
C'est un bonheur et il n'a pas de retenue là, d'une certaine façon. Alors que c'est quelqu'un qui est, de par son éducation protestante, à mon avis, extrêmement rigoureux, extrêmement sévère parfois, même s'il aimait rire et on le dit. Mais vraiment ce rapport à la nature, on ne peut pas faire l'œuvre qu'il fait avec la Nouvelle Géographie Universelle et avec l'homme et la terre, si on ne comprend pas tout ce temps qu'on a passé à essayer d'expliquer ce que ça représentait pour lui.
C'est une œuvre gigantesque.
Colossale.
Si vous voulez bien nous rappeler ce que sont ces deux livres essentiels, dont le second est posthume.
Alors, il y a trois livres. La Terre, le premier dont j'ai parlé, qui est plutôt de la géographie physique, mais déjà, il y a l'intervention humaine, parce qu'on en verra que l'écologie. Le deuxième, c'est la Nouvelle Géographie Universelle, qui va écrire pendant presque 30 ans.
En feuilleton.
En feuilleton. Parce qu'il voulait que ce soit lu par le plus grand nombre.
Bon
donc
marché.
Il fallait pas que ce soit cher. Et il écrivait, tous les jours il écrivait. Il n'y avait pas de jour où il n'écrivait pas quelques pages. Mais il a eu aussi un éditeur remarquable, et il faut insister sur Hachette et son gendre Templier. Enfin, je connais quand même pas beaucoup d'éditeurs qui vont faire signer un contrat pour une œuvre aussi colossale alors qu'il est emprisonné après la Commune au fort de Kellerne. Enfin, c'est il quand a... même absolument étonnant.
Il ça. A failli être envoyé en Nouvelle-Calédonie, mais un certain nombre de savants sont intervenus pour...
Non seulement les savants, mais l'ambassadeur des États-Unis est intervenu. Et les Anglais sont intervenus en disant « Non, mais la France ne peut pas se passer d'un savant pareil. Enfin, » Et c'est quand même étonnant. Et comment ça, malgré ça, on oublie Reclus avec une rapidité phénoménale? C'est quand même assez surprenant.
La fin de sa vie, c'est celle de ce labeur immense. Et il a travaillé en Suisse, en Belgique, labeur formidable. Il a vécu 75 ans. Il a vécu entre 1830 et 1905. Il est notable que Hachette ait fait accord avec lui pour qu'il ne développe pas, en principe, ses thèses à l'intérieur de son travail. Et ce sont ces thèses-là, maintenant, que je voudrais que nous considérions. En particulier, vous nous disiez tout à l'heure, Béatrice Gibelin, c'est plutôt un libertaire qu'un anarchiste. Il faut que nous comprenions ce que c'est que cet anarchisme-là, de quoi il s'est nourri, quelle était sa portée et quelle a pu être aussi son influence.
Je pense que le rôle justement de la nature, que son rapport à la nature et son protestantisme et son éducation protestante expliquent son choix de l'anarchie. C'est-à-dire ni Dieu ni maître, d'une certaine façon. Ce qui est le cas pour Élisée Reclus. Seul l'individu est responsable de lui-même. Les seules lois que je respecte sont les lois de la nature. Et il les dira plus d'une fois. Donc, si vous voulez, il est libertaire et il est géographe. Et l'un va d'une certaine façon avec l'autre. Et parce qu'il avait cette conviction, il a cherché, par ses écrits, à montrer ce que la nature apportait de positif, combien il fallait la respecter et combien l'homme était responsable de ses dérèglements. C'est quand même quelqu'un qui va parler à la fois de progrès, parce que c'est un homme du 19e, mais qui parle de régrès.
Il n'est pas du tout cartésien, l'homme qui est maître et possesseur de la nature, disait Descartes.
Oui,
on est aux antipodes. Là.
Aux antipodes. L'homme et la nature prenant conscience d'elle-même. Hein, ça sera un des sur le frontispice de ses écrits. Pour lui, c'est extrêmement important de respecter les lois de la nature. Alors, il va être en opposition avec Marx totalement. Marx les prenait, les frères Reclus, pour des doux farfelus sans grand intérêt. Mais il aura des relations... suivi avec Bakounine. Jusqu'à la mort de Bakounine, ils vont rester en contact et il va avoir des relations, on va dire, presque étroites, même s'il n'était pas d'accord sur tout.
Avec Kropotkin aussi.
Alors, Kropotkin, ça c'est très intéressant parce que c'est un prince russe qui est lui-même géographe et qui va énormément l'aider dans la rédaction du très très gros volume sur la Russie.
Il s'affirme comme anarchiste et en même temps, il prend ses distances par rapport à la propagande par le fait, par rapport aux attentats anarchistes. Écoutez ce texte que vous pourrez commenter ensuite, car il me paraît jeter une lumière intéressante sur la pensée de votre grand homme, sur la pensée de Élisée Reclus dont nous parlons ce matin.
Si vos questions se rapportent à des anarchistes conscients, à des anarchistes qui pèsent leurs paroles et leurs actes, qui se sentent responsables de leur conduite envers l'humanité tout entière, il va sans dire que les fantaisies explosives ne sauraient leur être imputées. Des fusées qui partent au hasard pour démolir des escaliers ne sont pas des arguments. Ce ne sont pas même des armes employées à bon escient, puisqu'elles peuvent fonctionner à rebours contre le pauvre et non contre le riche, contre l'esclave et non contre le maître. Pourquoi m'interroger puisque votre propre conscience a déjà répondu? Ni pour vous, ni pour moi, ni pour aucun anarchiste s'étant élevé à la compréhension de la dignité humaine et du respect d'autrui comme un autre soi-même, il n'est bon de haïr à l'aventure et de combattre en se cachant. Faisons notre propagande simplement. Les coups de bombe n'empêcheront point qu'on nous écoute.
Vous devez connaître cette extrait, Béatrice Gibelin, puisqu'il est emprunté au Chemin de la connaissance en juin 83. C'était une émission de Patrick Vieuville.
Oui, effectivement. On ne va pas s'étonner qu'Élisée Reclus soit pacifiste et ne soit pas partie prenante pour les actes de violence, même s'il arrivait parfois à excuser un acte violent dans des situations extrêmes de domination et d'exploitation. Et donc, on pouvait se révolter. Mais bien sûr, au moment des attentats anarchistes à Paris, il va s'y opposer parce que ce n'est pas sa façon de faire. Le respect qu'il a pour la vie humaine et pour chaque individu est tel qu'il ne peut pas être un partisan, effectivement, de la lutte armée. Même si, dans la commune, il a pris les armes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisque son bataillon s'est fait arrêter tout de suite et il a été emprisonné immédiatement.
Il a échappé aux fusillades ultimes.
Oui, il a échappé aux fusillades ultimes, effectivement.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Parenthèse, il était végétarien ? Élisée Reclus ?
Oui, il était végétarien.
Et cela nous conduit alors à ce que sa pensée peut signifier aujourd'hui du côté de l'écologie. C'est un des domaines où il me paraît, Béatrice Gibelin, sonner le plus actuel.
C'est absolument étonnant et remarquable. Moi, j'avoue que la première fois où j'ai lu dans La Terre ce qu'il disait sur l'érosion dans les Alpes avec la déforestation, c'était absolument remarquable. On y est à la situation actuelle aujourd'hui. Ce qu'il décrit en ce milieu du 19e siècle est la responsabilité de l'action des hommes dans une mise en valeur non raisonnée, non raisonnable et d'une actualité absolument total. Vraiment, il faut lire Élisée Reclus. J'ai écrit que c'était un écologiste avant l'heure, ô combien !
Et vous allez voir que cette nouvelle archive que je vais vous donner à entendre, oui, comme vous le dites, sonne incroyablement contemporaine. Déforestation, inondation, érosion, climat, c'est un extrait de l'émission Le cabinet de curiosité d'Emmanuel Hirsch, le 18 novembre 1997, sur France Culture.
Dans les montagnes du Dauphiné et de la Provence, les pentes, aujourd'hui si nues pour la plupart, étaient autrefois recouvertes d'arbres et de plantes diverses qui retardaient les eaux superficielles provenant de la pluie ou de la fonte des neiges, absorbaient une grande partie de l'humidité tombée et retenaient la couche de terre végétale sur les assises friables du rocher. Je dois vous expliquer que pendant le cours des siècles, les arbres ont été coupés par des spéculateurs avides et par des agriculteurs insensés qui voulait ajouter quelques parcelles aux champs de la vallée et aux pâturages des sommets. Mais en détruisant la forêt, ils ont détruit le territoire lui-même. L'eau, n'étant plus retenue sur les pentes par les racines des arbres, descend rapidement dans la vallée en poussant devant elle les débris arrachés au flanc de la montagne. Peu à peu, toute la mince couche de terre végétale est enlevée. La roche nue se montre, de profonds ravins se creusent dans les escarpements et sont parcourus en temps de pluie par des torrents furieux qui jadis n'existaient pas. On s'étonne des inondations, mais l'eau qui pénétrait lentement la terre et portait des sels fertilisants aux racines des arbres ne sert plus qu'à dévaster. On peut dire d'une manière générale que les forêts comparables à la mer par leur influence atténuent les différences naturelles de température entre les diverses saisons, tandis que le déboisement écarte les extrêmes de froidure et de chaleur. L'homme est responsable de son avenir. Le bûcheron comme le banquier, le pêcheur comme le navigateur. Et lorsqu'un bûcheron ne reboise pas et ne fait que couper, il a droit de demander des comptes à son patron, à son gouvernement.
Quel texte Quel texte. Il n'y a pas un mot enlevé de cela. Ça pourrait être écrit quand on a eu les grandes coulées boueuses et qui ont coupé les routes il n'y a pas très longtemps dans les Alpes. Mais comment a-t-on pu oublier et tout ça? Pour moi, c'est une grande interrogation. Comment les géographes qui se sont tant développés, bien après Élisée Reclus, sont partis sur une géographie physique de géomorphologie? Il y a eu de très grands géographes, il y a eu de très grands géomorphologues, mais qui ont perdu cette dynamique qu'il avait dans sa description des actions humaines. Les phénomènes d'érosion qui aujourd'hui reviennent, on le voit avec le problème sur les littoraux, on se rend bien compte de tout ça. Mais combien c'était déjà présent.
Il écrit quelque part « L'amour du lucre obscurcit les esprits et leur voile la beauté de la terre ».
C'est exactement ça. Mais je crois qu'il pouvait le comprendre comme ça, parce qu'il avait parcouru, marché. Je crois que pour Élisée Reclus, la compréhension profonde que la nature est quelque chose de vivant et de dynamique, lui permet justement de ne pas passer à côté des questions d'écologie qu'on a laissé tomber pendant quand même beaucoup, beaucoup trop longtemps. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas aujourd'hui les géographes qui sont les premiers qu'on devrait entendre sur toutes les radios partout, parce que c'est eux qui ont le plus d'outils pour expliquer les contradictions, les paradoxes du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Toutes les radios, en tout cas, vous êtes à celle-ci.
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord.
Cet appel sera entendu. Alors, nous parlions du luxe, cela conduit à la nécessité d'analyser l'idée qu'il se fait du capitalisme et de ses effets, et de son organisation et de ses périls. Là encore, il y a des textes de lui qui sont tout à fait prémonitoires.
Quand il parle de la mondialisation, c'est l'un des premiers à expliquer la mondialisation, en disant que la danse dans laquelle rentrent tous les peuples, avec laquelle il y aura toute une hiérarchie de la domination, quand il parle de l'impérialisme britannique, quand il annonce, on est bien avant la Première Guerre mondiale, il annonce que ce sont les États-Unis qui deviendront la première puissance, ce qu'elle deviendra après la Première Guerre mondiale. Et il est tout à fait conscient que c'est là que ça va se jouer, et qu'on aura des rivalités d'impérialisme qui vont avoir des conséquences extrêmement importantes. Il parle beaucoup de la Russie comme étant une puissance impériale qui va s'affronter, au fond c'est ce qu'on appelle le grand jeu entre l'impérialisme britannique et l'impérialisme russe. Tout ça est d'une actualité absolument remarquable. Alors, c'est pas un visionnaire, c'est surtout quelqu'un qui s'informe très très bien. J'ai dit qu'il utilisait énormément la presse. Il utilise énormément ses correspondants à l'étranger, il voyage beaucoup, et c'est parce qu'il est capable de faire cette analyse des rapports de force politiques qu'il va pouvoir nous expliquer, au fond, qu'on est en processus de mondialisation, qu'il appellera d'ailleurs « progrès et régrès ». Voilà. Ce qui est formidable avec lui, si vous voulez, c'est qu'il a conscience de la hiérarchie des oppressions. C'est pas une vision simple, les gentils et les méchants, les riches et les pauvres. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il a des textes extrêmement intéressants sur comment le pauvre pèse sur plus pauvre que lui. Comment le pauvre exploite le plus pauvre que lui.
Il a un sentiment profond des échelles, ça qui frappe à le lire, des différentes échelles. Ce qui lui permet de n'être jamais simpliste à cet égard.
Exactement. Par exemple, quand quelque chose se passe au niveau d'un quartier, il sait comprendre pourquoi ce qui se passe, par exemple, dans un ghetto aux États-Unis est le résultat de très grandes, simplement, trafic d'esclaves, qui met en jeu des espaces beaucoup plus vastes. Il n'est pas jamais focalisé sur une seule échelle.
Eh bien, écoutez donc cette dénonciation de la monoculture qui lui paraît un très grand péril, fruit direct du capitalisme. La monoculture au Brésil, c'est un extrait de la nouvelle géographie universelle, cette grande œuvre que vous venez, Béatrice Gibelin, de célébrer pour nous.
L'industrie du café au Brésil, et notamment dans l'état de Sao Paulo, où l'on compte plus d'un million de plants, est une merveille de l'agriculture et fait l'étonnement des économistes. Mais on peut se demander, sans parti pris contre le régime de la grande propriété, s'il n'y a pas danger à sacrifier toutes les productions à une seule, tant fructueuse qu'elle soit. La population, rapidement croissante, se trouverait exposée à un appauvrissement soudain si quelque phénomène économique ou un désastre naturel venait à tarir tout à coup la source de cette étonnante richesse.
Le Brésil, et puis il nous parle aussi de l'Inde, la colonisation en Inde, et son propos rejoint tout à fait ce que vous venez de nous dire sur cette délégation des oppressions en quelque sorte.
Les pays les plus fertiles, du moins dans les bassins du Gange et du Brahmapoutre, sont précisément ceux dont la population vit dans la plus abjecte misère. Les taloukdars de l'Aoud, les amindars du Béhar et du Bengale, les planteurs de l'Assam se sont partagés la contrée, favorisés par le gouvernement anglais, qui se compose lui-même de landlords, possesseurs d'immenses domaines. C'est ainsi qu'une grande partie de l'Inde a été changée en une autre Irlande. Ainsi, la classe des riches propriétaires, hindous ou musulmans, se tient-elle pour solidaire des maîtres britanniques auxquels elle doit son pouvoir et la rentrée régulière de ses revenus.
On retrouve là l'analyse que vous nous proposiez après Élisée Reclus.
Oui, mais ce qui est quand même assez remarquable, c'est il explique la colonisation de l'Inde par l'utilisation machiavélique des Britanniques des zamindars, c'est-à-dire de ceux qui prélevaient l'impôt d'une terre collective, et ils les ont rendus à la limite propriétaires de cette terre. Ils les ont fait riches. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est très rare qu'on voit quelqu'un étudier le mécanisme de la prise de pouvoir et de la domination. C'est-à-dire que les colonisations, elles ne se sont pas faites dans des guerres extrêmement rudes, sauf l'Algérie. Ça, je mets à part. Mais c'est toujours parce que un certain nombre de locaux ont trouvé intérêt à faire alliance avec le colonisateur pour se libérer d'une autre oppression. Et c'est ça qui est intéressant chez Reclus. C'est qu'il est capable d'analyser les chaînes d'oppression. Son cœur va du côté des plus démunis, c'est bien évident. Mais il n'est absolument pas aveugle sur la violence que la misère fait peser sur plus pauvres que lui.
On trouve toujours, au fond, dans ce œuvre, courir trois thèmes, ceux qui sont les mêmes, c'est-à-dire d'abord l'existence de classes sociales qui sont différentes, qui sont opposées d'intérêt. Tout le monde ne ratifie pas à l'époque cette conviction, loin de là, notamment du côté du monde bourgeois. Ensuite, la recherche de l'équilibre qui résulte de la lutte des classes, c'est-à-dire un affrontement entre ceux qui oppriment et ceux qui cherchent à conquérir la liberté. Et puis enfin, le rôle primordial de l'individu, ça c'est fondamental, c'est ça qui le met d'ailleurs à distance des marxistes, à très grande distance des marxistes. Rien ne se transforme, rien n'évolue si ce n'est par l'effort individuel. Et c'est là qu'il se montre un anarchiste convaincu pour qui la seule société que l'on puisse dire libre est celle qui respecte la décision souveraine de l'individu.
Exactement ça, profondément. Il conduira ça toute sa vie, jusqu'à sa mort.
Je parlais du thème du Festival du film historique de Pessac la semaine prochaine, mais dans un an, les rendez-vous d'Histoire de Blois ont choisi comme thème la ville. Or, votre Élisée Reclus, Béatrice Gibelin, a aussi apporté beaucoup à la géographie urbaine, qui n'était pas tellement étudiée à l'époque par le milieu des géographes.
Ah non, et quand vous pensez que dans les principes de géographie de Vidal de Lablache, il n'y a rien sur la ville qui sont publiés, bien évidemment, après Élisée Reclus. Il y avait effectivement un travail fait de géographie urbaine qui était absolument remarquable, avec une cartographie d'une précision d'un certain nombre de quartiers. Les quartiers taudifiés, par exemple, de Liverpool, qui sont remarquablement cartographiés. New York aussi, les différents quartiers de New York sont aussi remarquablement bien faits. Il a un souci, mais je crois que ça vient de son séjour à Londres. Il a été très, très marqué, il avait 20 ans, 21 ans, par la grande, grande misère qu'il y avait au cœur de Londres. Et c'est un observateur constant. Et il se rend compte que c'est dans la ville que les choses se passent aussi. Et que les rapports de force, les rapports de classe sont bien plus visibles, effectivement, en milieu urbain qu'ils ne le sont en milieu rural.
Mais il dit aussi qu'il y a des affrontements culturels. Sa pensée n'est jamais systématique. Écoutez donc cette dernière archive, qui est une description de New York, un extrait encore du cabinet de curiosité en novembre 97.
New York présente les plus grands contrastes dans ses différents quartiers. La partie ancienne de la ville, où s'élèvent quelques monuments historiques et d'énormes constructions modernes à 10, 15 et même 20 étages, est un labyrinthe obscur où la foule des négociants, des capitalistes et de leurs employés se presse pendant le jour, mais où il ne reste la nuit que les gardiens des édifices. Et dans le voisinage, de nombreux misérables gitant des maisons malpropres, divisées en tenements ou garnis. La population de près de 2 millions d'hommes qui se pressent dans la ville proprement dite ne s'est pas mélangée d'une manière uniforme dans tous les quartiers. De même qu'il y a division des classes entre les ruelles sordides et les avenues somptueuses, de même, il s'opère une certaine répartition par quartier des nationalités diverses. Les Allemands sont en force sur de vastes espaces à New York et à Brooklyn. Les Français et les Italiens, quoique peu nombreux en proportion de l'élément germanique, ont aussi des rues qui leur appartiennent. Les 80 000 Juifs pauvres habitent près de la basse ville, du côté de l'Est, tandis que leurs frères, plus fortunés, se groupent dans le haut de New York, non loin du parc central. Les Nègres sont confinés vers l'Ouest, à côté des docks d'embarquement, et les Chinois grouillent à côté des Juifs indigents, dans le voisinage immédiat du quartier général de la police. Quant aux Irlandais, on les rencontre partout. Grâce à leur longue alliance avec le parti politique dominant à New York, ils ont longtemps presque monopolisé les fonctions subalternes, mais fructueuses, distribuées par la municipalité.
Certains grouilles, certaines formulations ne seraient peut-être plus employées aujourd'hui, Béatrice Jubelin.
Certainement pas. Et là, c'est intéressant parce qu'il parle des juifs indigents alors qu'il a un côté très antisémite, Élisée Reclus.
Ah oui.
Bah, le banquier juif.
Voilà. Malgré les liens entre le protestantisme et le judaïsme.
Malgré ces liens-là, pour lui, oui, il y a des passages, faut être honnête, même si j'ai beaucoup d'admiration pour Élisée Reclus, oui, il était antisémite.
Il a été anti-Dreyfusard ?
Non, il n'a pas été anti-Dreyfusard. Il n'a pas véritablement participé au combat sur Dreyfus. Il était à cette époque-là à Bruxelles et il n'a pas été un grand leader. Mais c'est intéressant d'écouter ce qu'il dit là sur la description de New York, parce qu'il repère très bien tous ces quartiers avec les arrivées, là, au fond, l'entraide qu'on a, les Allemands avec les Allemands, les Chinois avec les Chinois, les Irlandais. Alors c'est très intéressant sur les Irlandais. Eux, ils sont partout, hein, et avec des travaux qui sont pénibles, mais bien fructueux, hein, et sachant être au mieux avec le parti qui dirige la ville.
C'est-à-dire Tiffany Hall, c'est déjà au fond le film de Scorsese, Gangs of New York.
Exactement, et le clientélisme. Hein, avec lequel on peut fonctionner. Donc il a une analyse extrêmement fine, mais il y était allé à New York, il s'était beaucoup baladé dans New York. Mais c'est encore une fois la qualité de son observation. Et tout ceci va se traduire, par exemple, par une cartographie de précision de New York. On a des plans de New York qui sont tout à fait remarquables, si vous voulez, où on peut repérer ces différents quartiers.
Vous nous dites que l'utilisation de la carte dans son œuvre est absolument essentielle.
Ah, mais c'était une condition qu'il avait demandée. De pouvoir avoir des cartes en couleur. Pour lui, il n'y a pas de géographie sans carte. Et l'homme et la terre est beaucoup moins riche en cartes, parce que ça coûtait très très cher.
Il aurait beaucoup aimé les nouvelles cartes que permet l'infographie.
Ah ben c'est sûr.
Les belles collections qui se développent actuellement.
Ça, c'est évident, il aurait adoré ça. Mais,
et que j'évoquerai dans notre bibliographie en ligne.
Mais il a eu quand même... le savoir de faire une carte des peuples des Balkans, je vous assure qu'une carte des peuples des Balkans précise, c'est quand même pas une petite affaire.
Nous l'avons appris.
Et qui est remarquable de précision, avec des nuances de couleurs. Et bien évidemment, après le discours qu'il va faire sur les Balkans, va tenir compte de cette complexité. Ce que j'apprécie chez Élisée Reclus, c'est que le monde n'est pas simple. Voilà, le monde est compliqué, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de le comprendre.
Il pourrait être historien, nous qui aimons à dire, c'est plus compliqué que vous ne croyez.
Oui, vous dites souvent ça, mais généralement l'historien sait qui a gagné la bataille, ce qui n'est pas le cas du géographe.
À propos de la géographie urbaine, Béatrice Jubelin, on ne peut qu'être sensible à la distance qui s'est créée entre votre Élisée Reclus, entre notre Élisée Reclus aujourd'hui, et d'autre part le grand géographe qui était Vidal de Lablache. Je lui avais consacré une émission voici déjà longtemps. Comment opposeriez-vous les deux personnages ? Il y a visiblement des oppositions nettes, à la fois de tempérament et de doctrine.
Oh, c'est Vidal qui dira très peu de temps après la mort d'Élisée Reclus. De toute façon, comme vous le savez, son œuvre est dépassée.
Ah oui, c'est pas tendre. Hein.
Voilà.
Et pourquoi ça. Alors, comment définiriez-vous cette opposition entre...
Vidal de Lablache était un conservateur et qu'Élisée Reclus était un anarchiste vraiment libertaire. Et puis surtout, c'est des conceptions de la géographie radicalement différentes.
En quoi ?
Pour Élisée Reclus, le champ de la géographie est immense, immense. Ça va bien évidemment de la géographie physique du petit cours d'eau jusqu'à la mondialisation et à l'impérialisme américain.
La géopolitique, par conséquent.
Exactement. D'une certaine façon, c'est une géopolitique, comme je le dis souvent, libre et généreuse. Bon, pour Vidal, tout est beaucoup plus rétréci. Vidal ne voyageait pas. Vidal est un historien, d'abord, et il va venir à la géographie. Mais on a parlé des voyages de Reclus. Vidal n'a pas voyagé.
Géographe en chambre.
Oui, beaucoup plus, mais comme beaucoup d'autres à l'époque, si vous voulez. Donc, on ne va pas lui jeter la pierre. Mais c'est surtout quelqu'un qui voulait, j'allais dire, installer la géographie à l'université comme une science, pour avoir le respect des autres, en particulier des historiens. À quel prix ? C'est-à-dire une forme de castration absolument terrible de tout ce qui est... Pour moi, la géographie utile, c'est celle qui tient compte du politique.
Donc, pour des raisons notamment chronologiques, Jules Verne a emprunté beaucoup plus, bien sûr, à Élisée Reclus qu'à Vida de la Blache.
Bien sûr, et ils ont eu le même éditeur pour publier L'histoire d'un ruisseau, qui a quand même été un livre de prix qui a été donné à des générations d'élèves. Il a été republié jusqu'en 1930, je crois, et il a été republié récemment.
Livre de Reclus.
Livre d'Élisée Reclus.
Il est d'ailleurs significatif que Élisée Reclus ait souhaité écrire pour les enfants. Toujours cette idée que transmettre sa compétence peut servir aussi le civisme à venir.
Essentiel. En plus que ce soit l'histoire d'un ruisseau, hein, parce que l'histoire d'une montagne, c'est beaucoup moins intéressant. Mais l'histoire d'un ruisseau, c'est effectivement absolument charmant, c'est vrai. Et puis justement, c'est de la goutte d'eau jusqu'à l'embouchure. Et c'est ça qu'il aime traduire, ce qui lui permet d'accompagner l'enfant dans la découverte à la fois des lumières, à la fois de l'érosion, à la fois des sons. C'est comme un petit film, cette histoire d'un ruisseau. Il a eu, je ne sais pas combien d'éditions, mais je vous disais, jusqu'en 1930, ça a été réédité.
Vous n'avez pas dissimulé, Béatrice Giblin, au long de cette heure de conversation, que vous éprouvez pour Élisée Reclus une dilection particulière.
Je ne m'en cache pas.
Et vous l'avez signifié dans ce livre que j'évoquais tout à l'heure, Élisée Reclus, un géographe d'exception, publication des éditions Kern en 2021. Kern, c'est un éditeur du Sud-Ouest, c'est-à-dire la région natale d'Élisée Reclus. Ce n'est pas le site que l'on connaît bien. Je viens de recevoir un livre qui est éclairant, qui s'appelle « Beauté de la géographie » de Jean-Robert Pitt, qui est un des géographes les plus éminents actuels. C'est un ensemble de textes, de propos tenus devant l'Académie des sciences morales et politiques. C'est une édition des presses universitaires de France. Alors je signale aussi que vous avez donné, si certains renâclent l'idée de se plonger dans cet immense ensemble que vous avez décrit, l'œuvre de Reclus, de considérer les extraits que vous avez proposés de L'Homme et la Terre à la découverte en 1998. C'est une réédition.
Oui. La première édition de 1981.
Quels critères vous ont guidé pour choisir dans cet ensemble tel ou tel texte à nous proposer ?
La partie la plus contemporaine de L'Homme et la Terre, puisque c'est une grande fresque historique. Donc j'ai choisi dans les deux derniers tomes, le 5 et le 6, tout ce qui me semblait d'une grande actualité et qui, maintenant 40 ans après l'avoir écrit, me semble toujours d'une très très grande actualité.
Je voudrais enfin que vous nous aidiez à mieux connaître encore cette belle revue que vous dirigez, c'est-à-dire Hérodote, qui a comme sous-titre « Revue de géographie et de géopolitique ». C'est une fidélité à Élisée Reclus, j'imagine.
Incontestablement.
Vous avez consacré deux numéros d'Hérodote à Élisée Reclus en 1981 et 2005. Est-ce que je me trompe en disant que vous avez, dans cette revue de géographe, beaucoup d'affinités avec notre muse Clio, avec l'histoire?
Il n'y a pas de géographie sans histoire, il ne devrait pas y avoir d'histoire sans géographie. C'est Élisée Reclus qui disait « La géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace, en même temps que l'histoire et la géographie dans le temps ».
Nous terminerons, si vous le voulez bien, sur ce propos qui montre nos affinités, géographie et histoire. Personne ne s'en plaindra. Une bibliographie plus complète sera proposée sur notre site avec d'autres auteurs qui se sont intéressés à Élisée Reclus avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous savez que vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission.
Pars, surtout ne te retourne pas.
Et alors que nous écoutons Jacques Higelin célébrer le départ, je vous rappellerai que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Georges Tau et Guillaume Leplège à la prise de son, avec Keating Wang à la discothèque, Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et Christine Anzano pour la documentation.
Mais l'enfant... l'enfant, mais il est là, il est avec moi. C'est drôle. Quand il joue, il est comme toi, impatient. Il a du cœur, il aime la vie, et la mort ne lui fait pas peur. Alors pars, surtout ne te retourne pas. Oh, pars. Mais qu'est-ce que t'as ?